Chers frères et sœurs, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez à ce que cette phrase peut dire à quelqu'un qui venait au culte pour la première fois de sa vie. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mieux que cela, imaginez-vous tout à l'heure, sortant du temple, croisant quelqu'un dans la rue, imaginez-vous lui dire, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne serait-ce que la formule, nous avons la paix avec Dieu. Il n'est pas impossible que cette personne appelle la police municipale. Est-ce que cela dit simplement quelque chose à quelqu'un qui ne fréquenterait pas nos assemblées depuis des années et des années? Cela vous est-il arrivé un jour de croiser quelqu'un qui vous arrête et qui, d'une voix tremblante, vous demande « Est-ce que vous pensez que je suis en paix avec Dieu ?» Je veux dire par là, avez-vous le sentiment que la question de la paix avec Dieu taraude nos contemporains? Et maintenant, soyons un tantinet plus précis. Êtes-vous vous-même un peu inquiet de la question de savoir si vous êtes en paix avec Dieu? Alors, bien entendu, comme vous êtes d'honorables paroissiens, cette question a été traitée et ce n'est plus un sujet. Vous savez que par la foi, vous êtes réconcilié avec Dieu et que vous pouvez donc passer à autre chose. Vous pouvez vous consacrer entièrement à l'éthique protestante et à développer l'esprit du capitalisme pour reprendre Max Weber. Mais qui est encore taraudé par l'angoisse d'un Martin Luther qui était tourmenté, lui, par la question du salut, par la question de sa réconciliation avec Dieu, par la question de savoir s'il pouvait hériter de la vie éternelle? Toute la vie de Martin Luther dans sa jeunesse était orientée par cette question du salut. Et les historiens du Moyen-Âge disent que cela était une question assez universelle. Il semblerait que notre XXIe siècle ait soldé un peu cette affaire-là. Et pourtant, les angoisses profondes ne manquent pas de nos jours. Je le rappelais lors de ma dernière prédication, la consommation des anxiolytiques et des produits stupéfiants est assez honorable en France. Et elle contribue largement au produit intérieur brut. Il y a toujours des personnes qui vivent la peur au ventre. Mais ces angoisses ne sont plus dites avec les mots de la religion, avec les idées développées par les rédacteurs bibliques et par les théologiens qui leur ont succédé. Les inquiétudes du temps présent ne sont plus abordées avec les ressources de la foi. C'est comme si la foi était devenue juste une sorte de folklore. Un folklore utile pour nous donner un peu de culture dans une société d'origine judéo-chrétienne, comme je l'ai dit de temps en temps pour mieux comprendre les tableaux qui sont affichés au musée Fabre, mais sans plus. Comme si la foi chrétienne n'était plus en mesure de nous aider à vivre au jour le jour. Comme si la foi chrétienne n'était plus à même de nous donner les moyens de penser notre vie en profondeur. Et n'entendez pas dans ce que je vous dis la moindre once de regret, car nous allons maintenant passer le reste du temps à voir la pertinence de la foi chrétienne. Je prends juste ce constat pour vous montrer qu'il est important de reprendre ces phrases bibliques pour essayer de les traduire de manière compréhensible aujourd'hui, pour tous nos contemporains qui ont l'impression que la religion chrétienne ne sert pas à grand-chose, qu'elle est vraiment éloignée de leurs préoccupations quotidiennes, que cela n'est plus qu'un vestige d'un passé définitivement soldé. Et puis, soyons honnêtes, Traduire ces formules religieuses sera d'abord utile pour nous-mêmes. Parce que, pour le dire de façon un peu vulgaire, souvent quand même, les textes de Paul sont un peu boring, un peu ennuyeux, pour ne pas dire soporifiques. Parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, à moins de s'y plonger avec résolution, ce que nous allons faire ce matin. Essayons donc de sauver le texte de Paul du charabia religieux. Et essayons de réentendre comment le thème de la justification par la foi, qui était au cœur de la théologie de la Réforme au XVIe siècle, peut avoir encore un intérêt pour nous aujourd'hui, y compris dans la cour de notre collège ou de notre lycée, et a fortiori de notre école primaire. Et c'est aussi au travail et dans les loisirs. Je vous aime. Être justifié, avoir la paix avec Dieu, disons-le très clairement, c'est être libéré du besoin de faire ses preuves. Ça, c'est peut-être un peu plus compréhensible. Non seulement nous n'avons plus à nous inquiéter de la place que nous occupons dans le monde, et en l'occurrence, de savoir s'il est légitime que nous soyons là, comme si nous étions des intrus, comme si nous usurpions notre place. Mais il n'y a plus aucune dette à régler à Dieu. Le fait d'être justifié revient à dire que nous n'avons plus à présenter la moindre preuve de notre dignité à qui que ce soit. Nous n'avons plus à nous demander si nous avons des droits égaux aux autres personnes. Cela signifie notamment qu'il n'y a aucune dette envers les rats. Tao, tes parents t'ont donné la vie. Et selon une logique très simple, donner, c'est donner. Tu n'as donc aucune dette envers eux. Rien à régler, rien à rembourser. Que ce soit financièrement ou que ce soit en termes d'affection ou autre chose. Nous n'avons pas à nous excuser de demander pardon d'être là. Le baptême déclare qu'il est juste et bon que tu sois là. Tu n'as plus aucun gage à donner, plus aucune preuve à donner qu'il est juste et bon que tu sois là. C'est la raison pour laquelle la Bible hébraïque avait mis en place le principe du rachat du premier-né. Quelque chose qui peut sembler un peu archaïque. Quand le premier-né venait au monde, il fallait sacrifier un animal. C'était une façon de dire que tout premier-né appartient à Dieu. Et comme on n'avait pas trop envie de tuer des enfants, à la place, on tuait un animal. Pour ce qui est de Jésus, les parents tueront des colombes au moment de sa présentation au temple. En disant que le premier-né appartient à Dieu, c'est une manière de dire qu'il n'appartient pas à ses parents. Qu'il n'appartient d'ailleurs à personne. C'est là le gage de sa vraie liberté, de son indépendance. Il n'appartient même pas à la nation. La justification, c'est notre libération de toutes les mainmises qui voudraient faire de nous leurs choses, leurs matières premières, leur chair à peine. Le baptême rappelle ce principe de la Bible hébraïque au moment du baptême de Jésus, à qui la voix de Dieu fait entendre une vérité qui vaut pour chacun d'entre nous. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À la limite, on pourrait dire, à partir de là, plus besoin de rien d'autre. En tous les cas, plus besoin de rien d'autre pour être convaincu qu'il est juste et bon, que nous avons le droit d'être là, de nous tenir sur la terre des vivants et de prendre notre part à l'histoire humaine. Voilà qui exprime que notre valeur ne dépend ni du statut social de notre famille, ni de son origine, ni de sa religion, ni de ses options philosophiques ou politiques, ni de ses savoirs, ni de ses actes. Nous sommes justifiés par Dieu, c'est une manière de dire que notre dignité ne doit rien à personne, même pas à nous. Comme le disait le philosophe Paul Ricoeur, nous valons plus que nos actes, nous valons plus que nos pensées, nous valons plus que nos paroles. Notre dignité est bien supérieure à ce que nous montrons de nous-mêmes. Cela signifie, bien évidemment, pour toi, Tao, que les personnes qui sont là et qui ont quand même une certaine expérience de la vie voient en toi beaucoup plus que ce que toi-même tu imagines être capable de faire et de vivre. Ils savent que tu ne t'arrêtes pas à la limite de ton corps, par exemple. Ils savent qu'il y a en toi des possibilités que tu ne soupçonnes même pas encore et qui pourront se développer de manière assez extraordinaire pour le petit garçon que tu es encore. Et qui, pour nous, sont tout à fait normales. En conséquence, personne ne devrait jamais dire à quelqu'un « Estime-toi heureux d'être là. » Ça vient un peu sous l'angle de la culpabilisation. « Estime-toi heureux d'être là et ferme-la. » Sous-entendant que sa présence sur Terre ne va pas de soi et qu'il serait redevable d'une manière ou d'une autre à quelqu'un. Être justifié, être en paix avec Dieu est donc une manière de dire notre dignité à part entière et sans condition. Mais comment cette paix a-t-elle été obtenue? Comment en est-on arrivé là en christianisme? En vertu de quoi est-il correct de dire que nous sommes en paix avec Dieu? Pourquoi est-il inadmissible de faire commerce de la peur? Pourquoi est-il inadmissible d'utiliser l'argument selon lequel nous ne serions pas quittes envers Dieu et qu'il faudrait encore déployer des trésors d'action pour obtenir la réconciliation avec Dieu? Tout d'abord, avec le théologien Karl Barth, dont nous avons fêté cette année le centenaire du commentaire sur l'Épître aux Romains, qui a été une sorte de révolution dans la théologie au XXe siècle. Tout d'abord, le théologien Karl Barth constatait que ni ici, ni ailleurs dans le Nouveau Testament, Dieu n'a besoin d'être réconcilié avec nous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, sur le plan au moins théorique. Jamais Dieu n'a besoin d'être réconcilié avec nous. C'est nous qui en avons besoin. L'apôtre Paul précise que c'est nous qui sommes justifiés et que c'est nous qui sommes en paix avec Dieu et non Dieu qui serait désormais en paix avec nous. Cela rompt le principe selon lequel nous avions une dette envers Dieu depuis, vous savez, l'épisode d'Adam et Ève. Et que cette dette aurait été réglée au moment de la mort de Jésus. Cette idée selon laquelle notre dette était immense, infinie, et que la seule façon de la régler était de mettre une somme immense sur la table. La seule façon de régler cette note infinie était que le Fils de Dieu meure. Mais cette conception pose bien des problèmes. Mais pour nous en tenir à ce que l'apôtre Paul expose ici, constatons que la seule crucifixion de Jésus n'aurait rien changé à la situation. Qu'est-ce que cela fait à l'homme de la rue que Jésus soit mort sur une croix? Reprenons un peu notre travail d'imagination. Ressortons à nouveau rue de Maglone. Et disons que Jésus est mort sur une croix et que par conséquent, vous êtes en paix avec Dieu. Là, ce n'est pas simplement la police municipale qui va être appelée. C'est la faculté de théologie. Au mieux, il y a de la considération pour un homme qui n'a pas été hypocrite et qui ne s'est pas défilé lorsqu'il a fallu mettre en acte ses paroles sur l'amour des ennemis. Parce que Jésus, refusant de se révéler contre ses accusateurs et refusant de leur porter préjudice, est cohérent avec sa prédication qui parle de l'amour du prochain, notamment des ennemis. Mais au pire, il y aura quand même quelques sarcasmes qui considéreront que Jésus a été bien bête de se laisser attraper et de mourir comme ça, que cela ne servait à rien et que cela ne change pas le quotidien, que cela n'est pas d'or les épinards, que cela n'empêche pas d'avoir des problèmes. Ce qui change notre vie, ce n'est pas le fait que Jésus soit mort sur une croix. Ce qui change notre vie, c'est ce qui précède. Ce qui change la vie, c'est le regard que Jésus portait sur la vie, justement. C'est sa manière d'être qui change les choses et ce qu'il en disait. Comment sait-on que nous sommes en paix avec Dieu? Comment Paul peut-il dire que nous sommes justifiés? Qu'est-ce qui l'autorise à dire cela? Comment celui ou celle qui ne fréquente aucune assemblée chrétienne peut-il trouver la moindre signification à cette justification et à cette paix avec Dieu? Eh bien, par exemple, en lisant les évangiles et en regardant comment Jésus a choisi ses disciples. C'est extrêmement instructif. C'est comme si vous vous demandiez, vous les jeunes, comment vous choisissez vos amis. Vous savez, c'est encore le mois de septembre. On arrive dans une classe où nous ne connaissons pas tout le monde. Et c'est toujours intéressant de se demander comment on se lie d'amitié avec les uns et avec les autres. Sur quels critères? Comment se fait-il qu'à un moment donné, on se sente proche de tel plutôt que de tel autre? Eh bien, cela a été raconté dans les évangiles. Jésus a notamment choisi quelqu'un qui s'appelait Matthieu. C'était un collecteur d'impôts, le trésorier payeur général. Il était un peu haï de tout le monde. Le Christ, lui, l'a aimé. Et il en a fait un de ses disciples. Il était quelqu'un qui s'appelait Pierre, un caractère assez éruptif. C'est quelqu'un qui va renier Jésus par trois fois quand Jésus aura vraiment besoin d'aide. Eh bien, après cet épisode fâcheux, le Christ l'a aimé trois fois pour compenser ses trois renoncements. Et lui a donné la responsabilité de ses amis au moment où il les quittait. On va parler de Judas. Mais parlons de Paul, justement. Le Paul dont il est question dans cet épître aux Romains. Le plus zélé des persécuteurs des premiers chrétiens. Dès qu'il voyait un chrétien, il faisait un procès rapide pour jeter des pierres, pour lapider la personne et la mettre à mort. En route vers Damas, l'actuelle Syrie, cet homme a une vision du Christ et il comprend qu'il est aimé par le Christ. Et il va devenir le plus zélé des apôtres du christianisme. Pour le dire à nouveau avec le théologien Karl Barth, comme Jésus-Christ a justifié Matthieu, il a justifié Pierre, il a justifié Paul, et il nous justifie. Quoi qu'il y ait en nous-mêmes. Et vous voyez, cette justification ne s'est pas faite par la croix. Elle ne s'est même pas faite par l'action de Jésus. On ne pourrait pas se dire que Jésus n'y est pour rien, sinon qu'il est celui qui a mis en évidence cette vérité profonde, qui était déjà faite avant nous. Et le baptême fonctionne de la même façon. Ce n'est pas parce que tu viens d'être baptisé que tu es soudainement quelqu'un de bien. Ce n'est pas parce que tu viens d'être baptisé que tu as désormais ta place dans la communauté chrétienne ou la communauté humaine. Le baptême te fait prendre conscience que cela a toujours été vrai pour toi. Le baptême te fait prendre conscience, avant qu'il soit trop tard, que la vie qui s'ouvre devant toi est une vie marquée par toute la beauté possible, par toutes les joies possibles, par toutes les réalisations possibles qui rendront ce monde infiniment plus vivable qu'il ne l'était avant que tu viennes au monde. Nous n'avons pas toujours eu conscience qu'il était inutile de se torturer avec le fait de savoir si nous avions encore notre place dans le monde. Nous n'avons pas toujours eu conscience qu'il était inutile de se torturer pour savoir si par hasard nous ne serions pas en fait des personnes de seconde zone, de seconde catégorie. Et s'il n'était pas juste finalement que tout le monde nous passe toujours devant. La prédication de Jésus a consisté à remettre les pendules à l'heure, à nous ouvrir les yeux sur notre véritable condition et surtout sur notre véritable valeur. Une valeur que déjà le prophète Ésaïe disait, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, tu as vu prier à mes yeux. La prédication de Jésus a consisté à révéler une vérité présente depuis la fondation du monde, à révéler une vérité présente qui est que nous n'avons rien à prouver. Il est juste et bon que nous soyons là. Nous pouvons vivre à égalité avec tous les autres, quel que soit leur âge. Cela ne se conquiert pas. Cela se découvre par la confiance que l'on accorde à cette vérité première. Et c'est ça la foi. La foi, c'est la confiance. C'est de dire que cette parole est juste. Cette parole dit vrai. Cette parole dit bien ce que nous sommes. Faire confiance en la vie qui nous accueille sans condition, voilà ce qu'il faut. Dire oui au fait que nous partageons une dignité semblable aux autres et réciproquement. Reste à savoir à quoi s'accepter. Alors, avec les philosophes utilitaristes qui considèrent que l'utilité est le critère à partir duquel nous pouvons évaluer les idées, les décisions, interrogeons-nous sur l'utilité de la justification, de cette paix avec Dieu. Ça sert à quoi, au juste? En quoi est-ce que c'est utile? Eh bien, Paul expose l'un des bénéfices de cette situation en parlant des tribulations, ça veut dire les difficultés. Quand on a des afflictions, quand ça ne va pas très bien, quand on est un peu tourmenté, on est ballotté par le cours des événements, on a l'impression de ne plus rien maîtriser. Être croyant ne dispense pas les difficultés. Ici, il y a des tribulations pour tout le monde, même pour les croyants. Mais la foi évite d'être anéanti par ces difficultés. La foi préserve l'anéantissement parce que la foi, c'est notre adhésion au fait que notre valeur ne dépend pas des circonstances. Il peut nous arriver des pépins. Nous pouvons connaître des échecs. La vie peut ne pas fonctionner comme nous le voudrions. Cela ne remet pas en cause notre identité profonde. Pas la peine de se remettre en cause dès qu'un problème survient. Nous pouvons remettre en cause nos analyses, nos décisions, nos manières de mettre en œuvre nos projets. Nous pouvons remettre en cause nos connaissances, nos compétences. Mais notre dignité, elle, ne dépend pas de nos résultats, ni des circonstances, ni des aléas de la vie. On peut se retrouver au chômage. Cela ne fait pas de nous un être de seconde zone. On peut redoubler en classe, cela ne fait pas de nous un être de seconde zone. On peut ne pas réussir un projet, on peut ne pas réussir un concours, on peut ne pas arriver premier à un championnat de sport, cela ne remet pas en cause notre dignité, notre valeur, notre identité. Par conséquent, les tribulations, les épreuves, ne sont plus des obstacles ou, plus exactement, ne sont plus les signes que notre humanité ne vaudrait rien. Les tribulations, les problèmes ne sont pas les signes que Dieu nous barrerait la route. Ce sont des sujets à traiter. On n'arrive pas à battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Eh bien, il faut peut-être penser à changer un peu la composition des équipes. Ça ne va pas être facile, je vous préviens. Parce qu'on est quand même mieux. Les difficultés, les échecs sont des sujets à traiter. Pas à la fin de notre histoire. La foi, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une adhésion personnelle au fait que la vie n'est pas un cadeau empoisonné que tes parents t'ont fait à ta naissance. La foi, c'est ce qui nous permet de ne pas perdre de vue cet horizon, qui est un horizon marqué par le bonheur et par la grâce. Une grâce et un bonheur auquel nous pouvons toujours prétendre. Et que le vocabulaire biblique nomme l'espérance. L'espérance, j'aimerais juste en dire un mot avec la formule de l'ancien président de la République tchèque, Václav Havel. Il disait, l'espérance, ce n'est pas être convaincu que quelque chose va bien finir. Ça, c'est plutôt l'espoir. L'espérance, c'est d'avoir la conviction que quelque chose a un sens, peu importe la manière dont ça va finir. Voilà l'espérance chrétienne. C'est que tu peux toujours remettre du sens dans ton histoire. Tu peux toujours redonner une direction plus favorable à ton histoire. Les difficultés n'émoussent pas notre espérance, parce que les difficultés ne remettent pas en cause notre identité profonde. Pour pasticher Paul, qui parlera un peu plus loin de cela, nous pourrions dire que ni la mort ni la vie, ni les licenciements, ni les échecs scolaires, ni les pervers narcissiques, ni les violents, ni les lâches, rien, jamais, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour inconditionnel qui fonde notre valeur intrinsèque. Quoi qu'il arrive, la théologie, la religion dit que tu es aimé par Dieu. Ce qui traduit dans un langage non religieux signifie que tu resteras toujours un humain digne d'être aimé. Et cela vaut pour les autres. Cela vaut pour tous ceux qui sont autour de toi, aujourd'hui et plus tard. Cette phrase de l'apôtre Paul nous dit qu'il n'est plus possible de voir en l'autre un ennemi irréductible, un être à abattre. Il n'est plus possible de voir quelqu'un à humilier ou à exploiter dans la personne qui se tient là. Il n'est plus possible de voir une personne de seconde catégorie dans la personne qui se tient là devant moi. Il n'est plus possible de voir quelqu'un sur qui se défouler dans la personne que je croise. Il n'y a plus de souffre-douleur possible, mais des êtres pour lesquels Jésus n'a pas renoncé à l'idéal de vie qu'il a prêché, au risque d'en mourir. Pour nous qui avons découvert à travers sa prédication cette vérité ultime, bien rappelons-nous que cette vérité est le fondement sur lequel il te sera possible de bâtir toute ton existence, quelles que soient les choses qui t'arrivent plus tard. Amen.